Coopération libérée.
Rubrique.coop, la voie coopérative.
La coopération libérée, chapitre 6. Équité plus empathie égale survie. Enfin une bonne nouvelle.
Des extraterrestres qui viendraient nous dire bonjour, par opposition à d'autres que l'on irait visiter, seraient probablement des super coopérateurs pour avoir réussi à construire des vaisseaux spatiaux. Il est probable qu'une telle coopération ne soit pas possible sans morale pour la réguler. Si les extraterrestres sont des êtres vivants soumis à la sélection naturelle, ce dont nous n'avons pas de raison de douter, il est donc probable qu'ils aient d'abord dû développer un sens moral avant de pouvoir être capables de construire leur vaisseau.
Vous avez certainement reconnu la voix et le style de Stéphane Debove, biologiste et docteur en sciences cognitives, lisant un extrait de son ouvrage paru récemment « Pourquoi notre cerveau a inventé le bien et le mal ». Stéphane Debove, avec lequel nous avions pu échanger il y a quelques mois, dans la chronique de la coopération déconfinée, chapitre 3, ne m'équitait pas. Voici donc accessible, dans toutes les bonnes librairies, une pièce essentielle du puzzle pour une compréhension moderne de nos comportements sociaux, et plus particulièrement de la coopération. En effet, ne retenant pour simplifier que trois apports essentiels que nous avons déjà présentés, les travaux de Robert Axelrod, ceux d'Omar Zana et donc ceux de Stéphane Debove, nous pouvons observer que tout se passe comme si les comportements coopératifs étaient à la fois efficients, éthiquement préférables et favorisés par notre capacité d'empathie. Mais reprenons les choses dans l'ordre. Avant d'être capable de construire des vaisseaux interstellaires, il y a sans doute à apprendre au fil du temps à être des utilisateurs loyaux les uns des autres, pour reprendre une expression de la philosophe Eugénie Wegleris. Dans cet apprentissage, nous pouvons être tentés de distinguer trois moteurs différents. Et tout d'abord, la puissance d'une démarche stratégique rationnelle, analysée notamment par Robert Axelrod. En dehors de tout jugement moral ou relation empathique, un individu calculateur peut choisir de coopérer parce qu'il aura intégré, on dirait aujourd'hui en pleine conscience, que la recherche d'optimisation de ses intérêts nécessite de prendre en compte ceux des autres. La coopération comme stratégie gagnant-gagnant est ainsi perçue comme efficace. Cependant, comme en témoignent par exemple les statuts d'association ouvrière, prototype des premières coopératives, la motivation mise en avant peut être explicitement la recherche de comportements vertueux. La coopération est présentée comme la traduction dans la relation de travail et au sein d'un collectif d'un engagement moral, centré sur le respect de l'autre et l'équité dans les échanges. Le préambule au statut de l'association des bijoutiers en doré en 1834 affirme ainsi la conviction que l'association est le meilleur moyen de mettre de l'ordre et la paix dans l'industrie, considérant également qu'elle constitue une simple application des principes moraux enseignés par le christianisme, qu'il est parfaitement conforme aux préceptes de la religion et autorisé par la loi civile. Voulant enseigner leurs frères par l'exemple et leur donner une preuve de la possibilité des avantages pratiques de l'association, s'étant cependant convaincu que l'association dans le travail doit être avant tout une œuvre de dévouement et de moralité, et qu'elle ne peut réussir aujourd'hui qu'à cette condition, les bijoutiers en doré ont ainsi décidé de créer leur association qui deviendra un des modèles des premières coopératives ouvrières. Ainsi, sans négliger tout à fait ces avantages pratiques, ces promoteurs présentent avant tout la coopération comme une œuvre de moralité. Ici, la référence au christianisme est explicite, mais dans d'autres expériences, on peut trouver d'autres références relatives à d'autres religions ou à une morale laïque qui présente également la coopération comme juste. Or, comme nous l'avons vu avec Omar Zana, s'il est possible de coopérer sans empathie et possible d'être en empathie avec quelqu'un en situation sans pour autant l'aider et initier ainsi une entraide réciproque, l'empathie semble une capacité bien pratique pour ressentir en direct ce dont l'autre a besoin, ce qui peut l'aider et à l'inverse ce qui peut lui nuire. La mise en œuvre d'une action véritablement coopérative est ainsi facilitée, amplifiée, régulée, ajustée par nos capacités d'empathie. Ou pour le dire autrement, une coopération pleinement satisfaisante peut au contraire être empêchée, pénalisée, détruite par la possibilité toujours présente de la violence sans ce rempart de l'empathie. Cette empathie qui nous présente l'autre ou qui nous permette de ressentir l'autre comme un autre nous-mêmes. Nous pourrions alors nous demander si les coopératrices et les coopérateurs sont d'abord des stratèges particulièrement avisés, de pointilleux défenseurs de la morale ou surtout de grands empathiques. Eh bien, nous pouvons faire l'hypothèse que ces trois dimensions s'articulent spécifiquement dans l'expression de nos capacités de coopération. La mise en œuvre de stratégies d'échange gagnant-gagnant ne répond pas à une injonction morale qui viendrait contrarier une nature égoïste et violente. Cette mise en œuvre mobilise notre sens de l'équité que l'empathie nous permet d'ajuster, de réguler de manière sensible en temps réel dans l'échange. De façon opérationnelle, le rôle de l'empathie est extrêmement important dans une relation, comme nous l'a montré Omar Zana, pour s'assurer que l'échange peut être juste et respectueux de l'autre. Je peux donc combiner la mobilisation d'un sens inné de l'équité avec une compréhension rationnelle de l'intérêt d'un échange gagnant-gagnant et une capacité d'empathie qui, en direct, dans l'échange, me permet de ressentir dans la relation à l'autre ce qui peut être juste bénéfique ou au contraire néfaste ou douloureux pour lui. Avant d'être un choix politique ou stratégique, la coopération peut être considérée, comme le fait Stéphane de Bove,
comme un attribut du genre humain qui peut sembler coûteux, puisqu'il incite au partage, mais qui a été probablement déterminant dans la capacité de survie des humains.
Les groupes humains ont pu survivre davantage parce qu'ils avaient au sein d'eux des coopératrices et des coopérateurs que parce qu'il y avait des êtres individuellement plus forts. Et comme l'évaluait il y a fort longtemps Spinoza, les religions, et non ceux qui professent la haine en leur nom, peuvent être considérées comme utiles pour donner quelques repères fondamentaux à celles et ceux qui auraient oublié ou n'auraient pas redécouvert par eux-mêmes, à force d'expérience et de réflexion, les bases d'une éthique personnelle. La capacité de développer des échanges réciproques, durables et équilibrés, des échanges justes, pourrait être renforcée par la transmission culturelle de valeurs et de comportements présentés comme justes, comme à travers les enseignements d'une morale. Mais pour Stéphane de Bove,
un ensemble de données venant de la génétique, de la psychologie, de l'anthropologie et de la biologie théorique font penser que l'humain pourrait déjà être, à la naissance, pré-câblé pour produire des jugements moraux. Cela ne veut pas dire que les bébés naissent avec une morale aussi développée que celle des adultes, ni que l'environnement dans lequel ils grandissent n'a aucune influence sur leur morale. Cela veut simplement dire que l'évolution les a préparés à se préoccuper de morale. Préparés à quel point ? C'est une question encore très débattue.
Bien d'autres questions apparaissent à ce stade, et notamment deux. La dynamique coopérative fonctionne-t-elle de la même manière à des échelles différentes ? On peut ainsi examiner avec Yuval Noah Harari l'hypothèse formulée notamment dans son livre Homo Deus. En distinguant la régulation des échanges de la coopération dans un groupe restreint, un groupe où chaque individu peut avoir un lien direct, on pourrait dire un vécu émotionnel avec les autres, il semble bien qu'au-delà de 150 personnes, ce type de relation ne soit plus gérable, entre guillemets, et la caractéristique humaine d'avoir pu gérer des systèmes de coopération à très grandes échelles et avec souplesse. À ces grandes échelles, ce n'est plus l'empathie et les réactions émotionnelles qui permettent de réguler la coopération. Pour Harari, c'est la croyance en un récit qui permet de coordonner l'action de milliers, voire de millions de personnes. Ceci peut faire le lien avec les grands récits politiques et religieux, qui semblent proposer à la fois une finalité à l'existence humaine, des règles ou principes de vie en société, et des règles de coordination du travail. Mais nous reviendrons une autre fois sur cette dynamique en se penchant sur l'évolution de ces grands récits et en se demandant s'il s'agit justement plutôt de processus de collaboration, notoirement manipulés par des élites, ou d'une véritable coopération. Mais une autre question me semble préalable. Si nous en revenons à une approche rationnelle, comme l'a dessiné Axelrod, rejoint par Stéphane de Bove, en dehors d'un réflexe purement altruiste, et même en dehors de toute amitié, ce qui peut amener à rechercher l'équité dans l'échange, c'est l'intérêt plus ou moins conscient d'être le plus souvent choisi comme partenaire et donc d'être digne de confiance, d'avoir la réputation d'être un partenaire loyal. L'expression d'Eugénie Wegleris « apprendre à être des utilisateurs loyaux les uns des autres » nous amène à fonder d'abord la coopération sur cette capacité à comprendre, à se rappeler peut-être, qu'il est dans notre intérêt de se soucier de l'intérêt d'autrui et de pouvoir construire avec lui des échanges réciproques basés sur la loyauté. Ce concept de loyauté n'est pas abstrait, puisque des travaux menés entre autres au niveau des Caisses des Jardins, la Banque coopérative québécoise, accompagnée notamment par le chercheur Daniel Côté, consistait il y a déjà quelques années à redéfinir la relation client à partir des valeurs coopératives, et d'abord à partir de ce principe de loyauté. Ainsi, il a été présenté le fait qu'il était notamment plus intéressant pour le conseiller de la banque comme pour son client que la coopérative énonce clairement et directement dès le début le meilleur taux de crédit possible, permettant de consacrer le temps et l'énergie, non pas à une négociation sur quelques centièmes de pourcent, mais au projet du client. Alors, puisque nous disposons du système C comme coopératif, pourquoi se contenter bien souvent du système D comme débrouille, et souvent débrouille-toi tout seul ? Et comment éviter le système E comme embrouille ? Mais nous verrons cela et plus particulièrement pourquoi la coopération, stratégiquement optimale, éthiquement préférable et psychologiquement difficile, dans de prochaines chroniques.